Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté et je vous propose de démarrer cette semaine une suite de lectures qui va nous emmener dans les arcanes de ce qu'on a appelé le roman policier, et en particulier le roman à énigmes. Je vous propose quelques textes de Conan Doyle qui nous racontent les aventures de Sherlock Holmes. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par une fameuse aventure, le ruban moucheté. Le ruban moucheté. Voici 8 ans que j'étudie les méthodes de mon ami Sherlock Holmes. Quand je compulse les notes que j'ai prises, je ne compte pas moins de 70 affaires sortant de l'ordinaire. Il y en a de tragiques, de comiques, de simplement bizarres, mais aucune ne saurait prétendre à la banalité. La raison est facile à comprendre. Holmes travaillait bien davantage pour l'amour de l'art que pour s'enrichir. Un tel désintéressement l'a donc incité à ne pas se mêler de cas vulgaires. Il lui fallait l'inhabituel et même le fantastique. Il me semble que l'histoire la plus singulièrement fantastique est celle qui le mit en rapport avec la célèbre famille de Surrey, les Roylott de Stockmoran. Les événements en question remontent au début de notre association, lorsque nous partagions, en garçons, le même appartement dans Baker Street. Sans doute les aurais-je relatés plus tôt, si je n'avais été tenu par ma parole d'honneur. Mais la dame qui me l'avait demandé est morte le mois dernier, et je me trouve délié de tout engagement. Au reste, il n'est pas mauvais que la vérité sur cette affaire soit enfin publiée. J'ai en effet de bonnes raisons de penser que le décès du docteur Grimesby Roylott a donné lieu à quantité de rumeurs dans le public. La vérité est à peine moins horrible. Mais enfin, elle l'est moins. De très bonne heure, un matin d'avril 1883, je m'éveillais parce que Sherlock Holmes, tout habillé, s'approchait de mon lit. Mon ami n'avait rien d'un lève-tôt. Comme la pendule marquait 7h15, je lui décrochais un regard où l'étonnement se mêlait à quelque ressentiment. J'étais moi-même un homme à habitude régulière et je n'aimais guère être dérangé à des heures indues. Désolé de vous tirer du sommeil, Watson, fit-il, mais vous n'échapperez pas au sort commun. Madame Hudson a été réveillée, elle m'a réveillé, à mon tour, je vous réveille. Mais qu'est-ce qui se passe? Le feu? Non, pas le feu, une cliente. Il paraît qu'une jeune dame vient d'arriver, très excitée, et qui insiste pour me voir immédiatement. Elle m'attend dans le salon. Lorsque les jeunes dames se promènent en ville à une heure aussi matinale et qu'elles tirent d'honnêtes gens de leur lit, je crois qu'elles ont quelque chose d'urgent à communiquer. En admettant qu'il s'agisse d'une affaire intéressante, vous ne demanderiez pas mieux, je pense, que de la suivre dès le début. Voilà pourquoi je vous ai dérangé. Pour vous donner une chance. Mon cher ami, je m'en voudrais de la rater. Rien ne me plaisait plus que de coller à Holmes pendant ses enquêtes. J'admirais la rapidité de sa logique, tellement prompte qu'elle rivalisait avec l'intuition. Elle déroulait toujours ses propositions en partant d'une base solide. grâce à quoi il débrouillait les problèmes les plus compliqués qui étaient soumis à sa sagacité d'analyste. Dans quelques minutes, je fus habillé et prêt à accompagner mon ami dans le salon. Une dame vêtue de noir et dont le visage était caché par une voilette épaisse se leva quand nous entrâmes. « Bonjour, madame, » dit Holmes aimablement. « Je m'appelle Sherlock Holmes et voici mon confrère et ami, le docteur Watson. Vous pouvez parler aussi librement devant lui que devant moi. Ah, je suis content que madame Hudson ait eu la bonne idée d'allumer le feu. Asseyez-vous près de la cheminée. Je vais commander pour vous une tasse de café car vous frissonnez. » « Ce n'est pas le froid qui me fait frissonner, » répondit la dame d'une voix étouffée tout en changeant de siège comme on l'en avait prié. « Quoi donc alors ? La peur, monsieur Holmes. Je suis terrorisé. » Elle releva sa voilette et nous fûmes amène de constater qu'elle se trouvait énervée à un degré pitoyable. Ses traits étaient tirés, sa peau grise, ses yeux agités trahissaient l'épouvante. On aurait dit un animal traqué. Elle semblait avoir une trentaine d'années, mais ses cheveux avaient prématurément grisonné. Elle donnait l'impression d'une femme épuisée, égarée. Sherlock Holmes lui dédia un regard aussi pénétrant que compréhensif. « Vous ne devez plus avoir peur, » dit-il doucement, en se penchant vers elle pour tapoter son bras. « Nous allons vite arranger cette affaire, j'en suis certain. »« Vous êtes arrivé par le train ce matin, n'est-ce pas ?»« Vous me connaissez donc ?»« Non. » »« Mais je remarque un billet de retour dans la paume de votre gant gauche. Et vous avez dû partir de bonne heure. »« Et vous avez fait une longue course en cabriolet sur de mauvaises routes avant d'atteindre la gare. » La dame sursauta et considéra mon camarade avec ahurissement. « Ne cherchez aucun mystère, chère madame, » dit-il en souriant. « Sur la manche gauche de votre veste, il y a des taches de boue très fraîches. Le seul moyen de transport qui projette ainsi la boue est un cabriolet. Et je suis sûr que vous étiez assise à gauche du cocher. »« Vous avez raison, » dit-elle. « J'ai quitté la maison avant 6 heures. » Je suis arrivé à Lesser Head vers 6h20 et j'ai pris le premier train pour Londres. Monsieur, je n'en peux plus. Je deviendrai folle si ça continue. Je n'ai personne vers qui me tourner, personne. Sauf quelqu'un qui me témoigne de l'intérêt, mais qui ne peut guère me secourir, le pauvre. J'ai entendu parler de vous, monsieur Sherlock Holmes. C'est madame Farintosh qui m'a parlé de vous. Vous l'avez aidée lorsqu'elle était en grand besoin de lettres. C'est elle qui m'a indiqué votre adresse. Oh, monsieur, ne croyez-vous pas que vous pourriez m'aider aussi? Si seulement je pouvais voir un peu plus clair dans la nuit où je me débat. Pour l'instant, il m'est impossible de vous offrir quoi que ce soit pour le service que vous me rendriez, mais dans un mois ou deux, je serai marié. Je pourrai disposer de mes revenus et je vous jure que vous n'aurez pas obligé une ingrate. » Holmes alla vers son bureau, ouvrit un tiroir et sortit un fichier qu'il consulta. « Farintosh, ah, dit-il, ah oui, je retrouve l'affaire de ce nom-là. Il s'agissait d'un diadème avec des opales. » « C'était avant notre association, Watson. Je vous dirai simplement, madame, que je serai heureux de m'occuper de vous et que j'apporterai à votre cas autant de diligence qu'à celui de votre ami. Quant à mes honoraires, mon métier lui-même comporte toutes sortes de récompenses. S'il entre dans vos intentions de me défrayer des dépenses que je pourrais avoir à supporter, alors vous me réglerez quand cela vous sera plus facile. Voilà tout. Pour l'instant, je vous serai reconnaissant de bien vouloir exposer tous les faits qui pourraient m'aider à former une opinion sur votre affaire. « Hélas, » répondit notre visiteuse, « ce qui fait l'horreur de ma situation est que mes craintes sont très imprécises et que mes soupçons ne sont fondés que sur de tout petits détails, qui, à quelqu'un d'autre, paraîtrait insignifiant. La personne, par exemple, dont je souhaiterais tirer de l'aide et un avis, de préférence à qui que ce soit au monde, prend mes récits pour des lubies d'une femme trop nerveuse. Il ne me le dit pas aussi nettement que cela, mais je le devine d'après le ton lénitif de sa voix ou d'après son regard qui fuit. On m'a affirmé, monsieur Holmes, que vous étiez capable de voir loin dans la méchanceté du cœur humain. En ce cas, vous pourriez me guider parmi les dangers qui guettent chacun de mes pas. Je vous écoute très attentivement, madame. Je m'appelle Hélène Stoner et je vis avec mon beau-père, qui est le dernier survivant de l'une des plus vieilles familles saxonnes de l'Angleterre, les Roylott de Stoke Moran, à l'extrémité ouest du Surrey. Holmes hocha la tête. « C'est un nom connu, » dit-il. Autrefois, cette famille comptait parmi les plus riches de l'Angleterre. Au siècle dernier, cependant, 4 héritiers successifs dilapidèrent les biens et la ruine de la famille fut consommée à l'époque de la Régence par un joueur. Tout ce qui fut sauvé se résume à quelques hectares et à une maison qui a 200 ans et qui est écrasée par une lourde hypothèque. Le dernier propriétaire y traîna une existence misérable, celle d'un aristocrate ruiné. Mais son fils unique, mon beau-père, comprit qu'il devait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Il obtint un prêt de l'un de ses proches, réussit dans ses études de médecine et alla s'établir à Calcutta. À force de persévérance et grâce à des qualités professionnelles, il se fit une importante clientèle. Toutefois, dans un accès de colère, et sous le prétexte que quelques vols avaient été commis dans sa maison, il battit à mort son majordome, un indigène, et il échappa de peu à la peine capitale. Il demeura de longues années en prison, puis il regagna l'Angleterre. Ce n'était plus qu'un homme aigri, un raté. Pendant que le docteur Roylott était aux Indes, il avait épousé ma mère, Madame Stoner, jeune veuve du major général Stoner de l'artillerie du Bengale. Ma sœur Julie et moi étions jumelles, et nous n'avions que 2 ans lorsque notre mère se remaria. Elle jouissait d'une fortune considérable. Ses revenus s'élevaient à près d'un millier de livres par an. Elle avait tout légué au docteur Roylott, pendant que nous vivions avec lui, sous la réserve d'une disposition au terme de laquelle une certaine somme devait nous être versée annuellement en prévision de notre mariage. Peu après notre retour en Angleterre, ma mère mourut. Elle fut victime, voici 8 ans, d'un accident de chemin de fer. Le docteur Roylott abandonna alors son idée de s'établir à Londres et il nous emmena dans la maison de ses ancêtres à Stoke Moran. Ma mère nous avait laissé suffisamment d'argent pour nos besoins. Tout semblait indiquer que les soucis nous épargneraient.
Je ne me souviens plus de son nom, je ne me rappelle plus de son prénom, aussi je l'appelle Annabelle. Je n'ai peut-être jamais su son nom, l'anglais a de ses complications. Ah mais est-ce qu'elle était bonne et belle? Elle était belle, elle était bonne, dans un hôtel comme on dit borgne, dans une rue où les voyous la nuit se battaient à l'anglaise sous la pluie. Elle était bonne dans cet hôtel comme on dit borgne, mon inoubliable Annabelle. Sa vieille patronne était portée sur le rhum arrosé de thé, à Manchester ça n'est pas gai. À Manchester où l'océan est suspendu au ciel tout le temps, ce qui fait qu'en plein mois d'août vraiment, en waterproof sous le parapluie, on s'aimait tant. Mademoiselle de Manchester, tu voulais du baiser pervers, je t'obéissais, Annabelle. le French qui savait du renom, tu trouvais ça très polisson, entre deux déluges de saison. T'avais une peau de nouveau-né, t'avais un sacré petit bout de nez. Oui, mais comme tu ne causais qu'anglais, il ne m'est resté que des « I love you » and « you me too ». Je ne me souviens plus de son nom, je ne me rappelle plus de son prénom, aussi je l'appelle Annabelle. Je n'ai peut-être jamais su son nom, l'anglais a de ses complications. Oh, mais est-ce qu'elle était bonne et belle? Elle était belle, elle était bonne, dans un hôtel comme on dit borne. En 42, pendant la guerre, là-bas, au loin, à Manchester, en Angleterre.
Nous voici de retour avec Sherlock Holmes et le ruban moucheté.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Ma mère donc nous avait laissé suffisamment d'argent pour nos besoins. Tout semblait indiquer que les soucis nous épargneraient. Mais un terrible changement s'opéra bientôt en notre beau-père. Au lieu de nouer des relations d'amitié avec nos voisins, qui s'étaient tous réjouis de revoir un Roy Lott de Stockmoran dans la vieille maison, il s'enferma chez lui. Il ne sortit guère que pour se prendre de querelle avec quiconque paraissait devoir ne pas lui céder le pas. Dans les hommes de cette famille, la violence du tempérament poussée jusqu'à la manie était héréditaire. Pour ce qui était de mon beau-père, une telle disposition n'avait pu que s'amplifier sous les tropiques. Une série de risques peu honorables se produisit. Deux d'entre elles eurent leur épilogue devant le tribunal correctionnel. Il devint la terreur du village. Les gens s'enfuyaient à son approche, car il est d'une force herculéenne et il ne se contrôle plus quand il est en colère. La semaine dernière, il jeta le maréchal Ferrand par-dessus le parapet du pont dans la rivière. J'ai dû tout donner l'argent dont je disposais pour éviter une nouvelle comparution en justice. Ses seuls amis sont les bohémiens. Il les autorise à camper sur les terres envahies par les ronces et il accepte parfois l'hospitalité de leurs tentes. Il va même jusqu'à faire route avec eux en certaines fins de semaine. Il a aussi une passion pour les animaux des Indes. Un correspondant lui en envoie régulièrement. En ce moment, il a un guépard et un babouin en liberté dans son domaine. Ces bêtes, autant que leur maître, terrorisent le village. Vous pouvez déduire de tout cela que ma pauvre sœur Julie et moi-même n'étions guère heureuses. Les domestiques ne voulaient pas rester chez nous. Pendant longtemps, nous avions été obligés de faire tout le travail de la maison. Julie n'avait pas 30 ans lorsqu'elle mourut. Et cependant, ses cheveux avaient commencé à blanchir, comme les miens sont en train de le faire. Votre sœur est morte, donc. Oui, il y a de cela juste 2 ans. Et c'est de sa mort que je voudrais vous parler à présent. Vous comprenez que menant l'existence que je vous ai dépeinte, nous ne voyions guère de gens de notre âge ou de notre rang. Pourtant, nous avions une tante, une sœur non mariée de ma mère, Mademoiselle Honoria Westpile, qui habite près de Harrow, et nous obtenions de temps en temps la permission d'aller la voir. Il y a 2 ans, pour Noël, Julie se rendit chez elle et fit la connaissance d'un major de la marine. Ils se fiancèrent. Quand ma sœur rentra à la maison, elle apprit à notre beau-père ses fiançailles et il n'éleva aucune objection. Mais 15 jours avant la date fixée pour les noces, un terrible événement me priva de ma sœur aimée. Sherlock Holmes s'était renfoncé dans son fauteuil. Et la tête posée sur un coussin, il avait fermé les yeux. Mais à ce point du récit, il entr'ouvrit les paupières et jeta un bref coup d'œil à notre visiteuse. « Soyez bien précise dans les détails, » murmura-t-il. « Oh, cela ne me sera pas difficile. Tout est resté gravé dans ma mémoire. Je vous ai déjà dit que notre manoir était très vieux. Une seule aile est habitée. Dans cette aile, les chambres à coucher sont au rez-de-chaussée, car les salons se trouvent dans la partie centrale du bâtiment. La première de ces chambres à coucher est celle du docteur Roylott. La seconde était celle de ma sœur, la troisième est la mienne. Entre elles, pas de communication directe, mais toutes trois donnent sur le même couloir. Suis-je assez clair ? Parfaitement clair. Les fenêtres de ces trois chambres ouvrent sur le jardin. Cette nuit-là, le docteur Roylott s'était retiré de bonne heure. Mais nous savions qu'il ne dormait pas, car ma sœur avait été incommodée par l'odeur des cigares de l'Inde, très forte, qu'il fumait habituellement, et elle avait quitté sa chambre pour passer dans la mienne. Nous avions bavardé de son prochain mariage. Vers 11 heures, elle s'était levée pour partir, mais au moment d'ouvrir la porte, elle s'était arrêtée et avait regardé derrière elle. « Dis, Hélène, tu n'as jamais entendu quelqu'un siffler quand il fait nuit noire ?»« Jamais, lui répondis-je. Je suppose que pendant ton sommeil, tu ne pourrais pas te mettre à siffler, n'est-ce pas ?»«
Bah, certainement pas, Julie. Mais pourquoi ?»«
Parce que cette dernière nuit, j'ai entendu toujours vers 3 heures du matin et distinctement un sifflement à demi étouffé. » J'ai le sommeil léger et ce sifflement m'a réveillé. Je ne puis pas te dire d'où il provient, peut-être d'à côté, peut-être du jardin. Je me demandais si tu l'avais jamais entendu.
Non, jamais.
Ce doit être ces maudits romanichels sous les arbres. Vraisemblablement. Pourtant, si cela venait du jardin, tu l'aurais bien entendu aussi.
Oh, j'ai le sommeil moins léger que toi.
Oui, oh, peu importe, après tout. Elle me sourit, sortit, referma la porte. Et je l'entendis verrouiller la porte de sa chambre. Vraiment ? Interrogea Holmes. Aviez-vous l'habitude de vous enfermer ainsi la nuit ?
Chaque nuit. Et pourquoi ?
Je crois que je vous ai parlé du babouin et du guépard du docteur Roylott. Nous ne nous sentions en sécurité que lorsque nos verrous étaient mis.
Parfait, me poursuivez, je vous prie.
Cette nuit-là, je ne parvenais pas à m'endormir. Un pressentiment me troublait. Je vous rappelle que nous étions jumelles, ma sœur et moi, et vous savez combien sont forts et subtils ces liens que tresse la nature. C'était d'ailleurs une nuit affreuse. Le vent hurlait, la pluie battait les vitres. Soudain, parmi tout le vacarme de la tempête, jaillit le hurlement sauvage d'une femme dans l'épouvante. Je reconnus la voix de ma sœur. Je sautai à bas de mon lit, m'enveloppai d'un châle et me précipitai dans le couloir. Au moment où j'ouvris la porte, il me sembla entendre le sifflement étouffé que ma sœur m'avait décrit. Puis, une ou deux secondes plus tard, un son métallique, comme si un lourd objet de métal était tombé. Tandis que je courais dans le couloir, la porte de ma sœur s'ouvrit et tourna lentement sur ses gonds. Frappé d'horreur, je regardais, je ne savais pas qui allait sortir. Puis la silhouette de Julie se profila dans la lumière de la lampe du couloir sur le seuil. La terreur avait retiré tout le sang de son visage. Elle agita les mains pour appeler à l'aide. Sa tête se balançait comme si elle était ivre. Je m'élançai, glissai mes bras autour d'elle pour la soutenir, mais ses genoux se plièrent et elle s'effondra par terre. Elle était secouée de convulsions comme quelqu'un qui souffre effroyablement et son corps était arqué. D'abord, je crus qu'elle ne m'avait pas reconnu, mais quand je me penchai sur elle, elle me cria d'une voix que je ne n'oublierai jamais. « Oh mon Dieu, Hélène, le ruban moucheté !» Il y avait autre chose qu'elle aurait voulu me dire et elle pointa du doigt vers la chambre du docteur Roylott. À ce moment, un nouveau spasme la saisit et lui retira le pouvoir de parler.
Je me ruais vers la chambre de mon beau-père en l'appelant de toutes mes forces. Il sortait hâtivement en enfilant sa robe de chambre. Quand il arriva auprès de ma sœur, elle avait perdu connaissance. Il desserra ses dents pour lui faire avaler un peu de cognac. Il eut beau envoyer chercher le médecin du village, elle sombra lentement dans le coma et elle mourut sans revenir à elle. Voilà comment je perdis ma sœur bien-aimée.
Un instant, dit Holmes. Êtes-vous sûr d'avoir entendu le sifflement et le bruit métallique? Pourriez-vous le jurer?
Ce fut ce que me demanda le coroner pendant l'enquête. J'ai vraiment l'impression d'avoir entendu cela. Toutefois, avec le déchaînement de la tempête et tous les craquements dans cette vieille maison, il se peut que je me sois trompé.
Votre sœur était-elle habillée?
Non. Elle était en chemise de nuit. Dans sa main droite, elle tenait un bout d'allumette consumé. Dans sa main gauche, une boîte d'allumettes.
Ce qui indique que quand quelque chose l'a alarmée, elle a allumé une allumette et a regardé autour d'elle. C'est important. Et quelle conclusion a tiré le coroner?
Il a mené l'enquête avec une grande minutie, car l'inconduite du docteur Roylott était depuis longtemps notoire dans le pays, mais il a été incapable de trouver une cause plausible du décès. Mon témoignage a indiqué que la porte avait été verrouillée de l'intérieur, que les fenêtres étaient protégées par de vieilles persiennes pourvues de grosses barres de fer et fermées chaque nuit. Les murs ont été sondés avec soin. Ils ont paru d'une solidité à toute épreuve. Le plancher a été pareillement examiné et sans résultat. La cheminée est large, mais elle est barrée par 4 gros crampons. Il est certain, par conséquent, que ma sœur était seule quand elle trouva la mort. Par ailleurs, on ne décela sur son corps aucune trace de violence.
Et a-t-il été question d'empoisonnement?
Les médecins y ont songé, mais leur examen a été négatif.
Selon vous, de quoi donc a pu mourir cette malheureuse jeune fille?
Je crois qu'elle est morte de frayeur, d'un choc nerveux. Mais qu'est-ce qui l'a effrayée? Voilà ce que je ne puis imaginer.
Y avait-il des Romanichels dans le domaine cette nuit-là?
Oui,
il y en a toujours, ou presque toujours dans le domaine.
Ah, et comment interprétez-vous l'allusion au ruban moucheté?
Tantôt je crois qu'elle délirait, tantôt je me demande si elle ne désignait pas les bohémiens, peut-être les mouchoirs multicolores dont ils serrent leur tête, lui avait-il suggéré cet étrange adjectif.
Holmes secoua la tête. Visiblement, cette explication ne le satisfaisait pas.
Nous nageons dans les eaux très profondes, fit-il. Voulez-vous continuer votre récit ?
2 années s'écoulèrent ensuite et jusqu'à ces tout derniers temps, ma vie n'avait jamais été plus solitaire. Il y a un mois, un ami très cher, que je connais depuis longtemps, m'a fait l'honneur de me demander ma main. Il s'appelle Hermitage, Percy Hermitage. C'est le 2e fils de M. Hermitage de Cranewater, près de Reading. Mon beau-père a donné son accord à ce projet, nous devons nous marier dans le courant du printemps. Avant-hier, quelques réparations ont été entreprises dans l'aile ouest du manoir. Le mur de ma chambre a été percé, si bien que je me suis vu dans l'obligation de me transporter dans la pièce où mourut ma sœur et de dormir dans le lit qui fut le sien.
Imaginez mon épouvante quand, la nuit dernière, ne dormant pas et méditant sur la terrible fin de Julie, j'entendis subitement dans le silence de la nuit le sifflement étouffé qui avait précédé sa mort.
Là, nous avons terminé pour ce soir. Donc, cette aventure de Sherlock Holmes, le ruban moucheté, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.